écoutez bien RFI, bienvenue à vous. Il est 23h à Paris, minuit à Beyrouth.
Mathis Limano.
À la une, le Proche-Orient, Benjamin Netanyahou menace le Liban de subir le même sort que Gaza. L'armée israélienne vise une nouvelle zone, la côte du sud du pays. La capitale Beyrouth n'est pas pour autant épargnée. Une série de frappes se sont abattues sur la banlieue sud dans la soirée. À la une également, l'opposition indienne remporte des élections très attendues au Cachemire. Et puis l'équivalent de 9 millions de terrains de foot, c'est la surface de forêt perdue l'an dernier dans le monde. Les mêmes destructions et les mêmes souffrances qu'à Gaza. La menace lancée par Benjamin Netanyahou au Liban si le pays ne se débarrasse pas du Hezbollah. La France qui dénonce une provocation de la part du Premier ministre israélien. Un avion envoyé par Paris est d'ailleurs en train d'évacuer une cinquantaine de ses ressortissants au Liban. Les frappes israéliennes, elles, se poursuivent. L'Agence nationale libanaise fait état ce soir d'une série de frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Le parti chiite qui a dit soutenir les efforts du Liban pour un cessez-le-feu, alors qu'Israël a affirmé avoir abattu les potentiels successeurs d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah tué dans une frappe fin septembre. La guerre au Liban prend une nouvelle dimension. L'armée israélienne a étendu ses avertissements d'évacuer à toutes les populations présentes en mer et sur un quart de la côte libanaise dans le sud du pays. Dans le viseur de l'armée israélienne, entre autres, les travailleurs de la mer. Au Liban, nos envoyés spéciaux Abla Jounaïdi et Jadel Khoury.
L'armée israélienne, après l'évacuation de dizaines de localités au sud de la rivière Awali qui se jette dans la Méditerranée au nord de la ville côtière de Saïda, s'en prend désormais à la côte sur 60 km, soit un quart de la façade maritime du pays. L'annonce faite lundi s'adresse à tous les habitants. Ils sont priés de rester loin des plages et de la mer. Les pêcheurs de Saïda et de Tyr, qui ont déjà vu leur zone de pêche déjà bien entamée depuis le début des hostilités il y a un an, s'inquiètent. Certains ont déplacé leur embarcation plus au nord. L'avertissement n'a pas de limite dans le temps. S'ils ne peuvent plus naviguer, les pêcheurs risquent de courir à leur ruine. Beaucoup ont acheté leur embarcation à crédit et la vie s'est encore renchérie. À Saïda, les loyers ont augmenté notamment avec l'afflux des populations fuyant les localités bombardées. À quoi vont ressembler ces opérations en mer dont le porte-parole de l'armée israélienne annonce qu'elles visent les infrastructures du Hezbollah ? Difficile de le dire. Ce qui est sûr, c'est que les promeneurs, les baigneurs sont menacés eux aussi être sur la plage, mettant « Danger votre vie », a prévenu l'armée israélienne. Abla Jounaïdi, Jadel Khoury, Beyrouth, RFI.
Les efforts de l'armée israélienne se concentrent désormais au Liban, donc une quatrième division y a été déployée. On apprend également qu'un tunnel du Hezbollah long de 25 mètres débouchant sur le territoire israélien a été démantelé. Mais à Gaza, la situation humanitaire n'a pas changé pour autant. Les civils vivent encore dans des abris délabrés à la recherche de nourriture et d'eau potable, alerte la Croix-Rouge. Le déplacement de la guerre vers le Liban n'a rien changé pour les Gazaouis, s'inquiète l'association humanitaire, alors que les explosions et les tirs sont encore réguliers dans le territoire palestinien. La guerre a bien contaminé la région. Le ministère de la Défense syrien fait état de la mort de 7 civils dans une frappe israélienne ce mardi sur un quartier densément peuplé de Damas. Pendant ce temps, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a reporté une visite officielle à Washington, repoussant ainsi une discussion avec son homologue américain à une possible trêve à venir. Vous devez évacuer maintenant, c'est une question de vie ou de mort. Le message alarmant lancé par Joe Biden aux habitants de Floride, alors que la pire tempête du siècle, toujours selon le président américain, se dirige vers l'État du Sud-Est. Signe de la gravité de la situation, Joe Biden a annulé ses déplacements prévus cette semaine en Allemagne et en Angola. L'ouragan Milton est classé extrêmement dangereux par le Centre national des ouragans. Il touchera la Floride dans la nuit de mercredi à jeudi. L'État qui se relève à peine 2 semaines après le passage de l'ouragan Hélène qui a fait 230 victimes aux États-Unis. En ligne, des vidéos montrent des embouteillages monstres en Floride, alors que les experts redoutent des destructions considérables. En Ukraine, la ville de Kharkiv visée ce mardi par l'armée russe. La frappe s'est abattue près d'une zone résidentielle. Elle a fait 2 morts et plus de 30 blessés selon les autorités régionales. Lundi soir, une frappe russe sur le port d'Odessa a touché un navire marchand. Un Ukrainien est mort, 5 étrangers ont été blessés. Dans ce contexte, la Russie continue de grignoter du terrain sur le front Est, notamment dans l'oblast de Donetsk. Les forces de Moscou ont annoncé avoir pris 2 nouvelles localités au sud de la ville hautement stratégique de Pokrovsk. politique. En Inde, l'opposition remporte des élections très attendues au Cachemire. Ce sont les premières en 10 ans dans la région qui est largement administrée par le pouvoir central depuis l'élection de Narendra Modi. Un message de rejet envoyé envers la gestion autoritaire du Premier ministre, dont le parti remporte tout de même une 30aine de sièges, comme Bastin.
C'était un test, puisqu'en 2019, Narendra Modi a supprimé le statut d'État du Cachemire. Depuis, un fort déploiement de l'armée, une suspension des libertés et l'arrestation de nombreux militants, la Cour suprême d'Inde avait exigé ces élections. Et c'est la National Conference, un parti socialiste du Cachemire, allié avec le Congrès, le principal parti d'opposition en Inde, qui remporte largement ce scrutin avec 49 des 90 sièges de la future assemblée du Jammu et Cachemire gagnée par cette coalition. Sa figure, Omar Abdullah, déjà élu en 2009, s'apprête à redevenir ministre en chef. C'est le signe que beaucoup d'habitants ne valident pas la réorganisation autoritaire de Narendra Modi dans la région et veulent le retour à plus d'autonomie, ce sur quoi la National Conference a fait campagne. C'est une défaite pour Narendra Modi, mais à relativiser. D'abord, elle était prévisible. D'autre part, son parti, le BJP, remporte tout de même une 30aine de sièges en dépit des critiques. Enfin, c'est une défaite avant tout symbolique, tant les pouvoirs de cette nouvelle entité politique ont été réduits. Comme Bastin, Bangalore, RFI.
Les autorités chinoises vont imposer dès ce vendredi des mesures anti-dumping contre les eaux de vie importées de l'Union européenne. Des droits de douane de 35% en moyenne en réponse à la surtaxe sur les voitures électriques chinoises décidée par Bruxelles. L'UE compte contester devant l'Organisation mondiale du commerce les mesures de rétorsion de Pékin. Le cognac représente l'écrasante majorité des importations d'eau de vie européenne en Chine. Frustration et incompréhension de la filière française, selon Nicolas Ozanam, délégué général de la Fédération des exportateurs des vins et spiritueux français. Il est interrogé par Agnieszka Kumor.
Depuis 9 mois, nous nous débattons dans un conflit qui n'a strictement rien à voir avec nos entreprises. Nous avons suivi toutes les différentes étapes de la procédure pour marquer notre bonne foi. Tout cela n'a mené à rien. On met en œuvre un dispositif de caution, c'est-à-dire que les entreprises doivent sécuriser les montants de ces droits. Et ça, ça nous paraît être un coup de canif, si j'ose dire, par rapport à la situation antérieure où il avait été annoncé assez officiellement que ces mesures provisoires ne seraient pas mise en œuvre. Quand vous êtes un petit producteur d'Armagnac, un petit producteur de cognac, bien souvent, la Chine représente une part tout à fait significative de votre chiffre d'affaires à l'export. Pour beaucoup de ces entreprises, ces droits sont susceptibles de leur porter un coût extrêmement difficile à supporter.
La Chine, qui reste le deuxième marché à l'exportation des spiritueux français après les États-Unis, un marché estimé à 1,7 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Imaginons maintenant 9 millions de terrains de football, l'équivalent de près de 6 400 000 hectares. C'est la surface de forêt perdue l'an dernier dans le monde, et ce selon la Forest Declaration Assessment, composée d'une 30aine d'ONG et de groupes de réflexion. Cela dépasse largement le niveau qui aurait permis de rester sur la bonne trajectoire pour atteindre l'objectif zéro déforestation à l'horizon 2030. L'engagement a été pris par plus de 140 dirigeants lors de la COP26 en 2021, Pauline Glaise.
La trajectoire de réduction de la déforestation prévoyait qu'il n'y ait pas plus de 4 400 000 hectares déboisés en 2023. La surface a donc dépassé de 45% les objectifs. Sur les 10 pays ayant la plus grande surface de déforestation, seul un, le Paraguay, est dans les clous. Tous les autres, RDC et Cameroun compris, ont largement dépassé l'objectif. Pour autant, sans être sur la bonne trajectoire, certains pays ont fait des progrès. C'est le cas du Brésil, ce n'est pas le cas, loin de là, de la Bolivie. L'augmentation de la déforestation dans le pays sud-américain alarme les auteurs de l'étude, plus 351% entre 2015 et 2023. En cause, la crise économique et les réformes favorisant l'extension des terres agricoles. Autre point d'inquiétude dans ce rapport, le rebond de la déforestation en Indonésie, un phénomène exacerbé par la demande pour des produits à visée écologique, comme le nickel, très demandé dans le cadre de la transition énergétique. Les forêts indonésiennes souffrent aussi de l'engouement pour la viscose. Cette fibre textile, parfois présentée comme une alternative au polyester, est réalisée à partir de pulpes de bois.
Précision signée Pauline Glaise du service environnement de RFI. Et puis en bref, pour refermer votre journal, au Brésil, un juge de la Cour suprême a ordonné ce mardi la levée immédiate de la suspension du réseau social X, dont l'accès avait été bloqué il y a plus d'un mois au nom de la lutte contre la désinformation. RFI, il est presque 23h10, ici à Paris, 21h10, en temps universel. Merci d'être à l'écoute de la Radio du Monde.